Radio Prague, les informations.
Bonjour, les étudiants tchèques se mobilisent également pour le climat. Marine Le Pen sera à Prague en avril prochain et puis la République tchèque condamne l'attentat terroriste en Nouvelle-Zélande. Ce vendredi 15 mars, les étudiants, lycéens et collégiens tchèques se sont également mobilisés dans le cadre de l'initiative Fridays for Future. Plus de 2200 jeunes ont signé en 2 semaines une déclaration commune exprimant leur mécontentement face à l'inaction des politiques en faveur du climat. Suivant l'appel de l'adolescente suédoise Greta Thunberg, les jeunes tchèques étaient appelés à sécher les cours pour alerter leurs dirigeants et ceux de la planète sur l'urgence climatique. Leur mouvement est soutenu par l'ONG Dura, la branche tchèque de Greenpeace, ainsi que par une centaine de scientifiques et académiciens tchèques. En termes de production de dioxyde de carbone par habitant, nous faisons partie des plus gros pollueurs au monde. Nous ne pouvons pas faire comme si le problème du changement climatique ne nous concernait pas, peut-on lire dans la déclaration commune initiée par le chimiste et physicien Pavel Jungwirth de l'Institut de chimie organique et de biochimie de l'Académie des sciences. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le fondateur du Parti pour la liberté, Geert Wilders, seront à Prague en avril pour participer à une manifestation organisée par le chef de file du mouvement anti-migrant SPD, Tomio Okamura, a fait savoir la porte-parole de ce dernier. Les deux dirigeants de l'extrême droite française et néerlandaise seront présents sur la place Venceslas le 25 avril prochain. Les manifestants entendent exprimer leur rejet de l'Union européenne, de sa politique notamment migratoire, ses valeurs et ses principe. La députée européenne britannique pro-Brexit Janice Atkins devrait également être présente. En janvier dernier, certaines spéculations évoquaient la possibilité que le parti d'extrême droite SPD de Tomio Okamura et le nouveau mouvement initié par le mania de la presse Jaromir Soukup pourraient présenter une liste commune aux prochaines élections européennes de mai 2019 avec le soutien de Marine Le Pen. Si Jaromir Soukup n'envisage finalement pas de se présenter pour ce scrutin, ce n'est pas la première fois qu'émerge l'idée d'une large alliance européenne des partis d'extrême droite unis par leur volonté d'en finir avec l'Union européenne. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a condamné l'attentat terroriste contre 2 mosquées perpétrées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il a présenté ses condoléances aux proches des victimes et aux habitants de l'archipel. Les dirigeants du parti ODS et Top 09, Petr Fiala et Markéta Adamová, ont également condamné cette attaque. D'après le ministère des Affaires étrangères, aucun ressortissant tchèque n'est à déplorer parmi les victimes. Le bilan provisoire de cet attentat imputé à des suspects liés à l'extrême droite et de 49 victimes. La police tchèque a mis en examen 12 ressortissants de l'ex-Union soviétique pour trafic d'êtres humains. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison, selon le porte-parole de la Centrale nationale de lutte contre le crime organisé. Cette organisation opérait depuis plus d'un an et faisait venir de manière illégale des migrants issus de pays d'Asie du Sud-Est. Les enquêteurs ont mis au jour plus d'une dizaine de cas où les trafiquants avaient ou avaient essayé de faire passer d'Ukraine en Tchéquie puis en Allemagne des centaines de réfugiés originaires du Bangladesh, du Sri Lanka et du Vietnam. Le 20 mars prochain se déroulera à Prague la 3e édition de l'Académie Versailles, un masterclass organisé par les festivités d'été de musique ancienne et consacré à l'interprétation de la musique baroque française. Cette année, 35 étudiants et jeunes professionnels de 13 pays différents y participeront. Ce masterclass international se déroulera sous la houlette de spécialistes en musique de chambre, en chant, en théâtre de mouvement et en jeu sur instruments anciens. On termine par un mot de météo. Samedi, jour de fête des Helena, grisaille et pluies régneront sur l'ensemble du pays, hormis la façade ouest. Les températures maximales oscilleront autour de 9 degrés. Retour du soleil et de la douceur pour tout le monde dimanche avant une rechute en début de semaine. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Tout de suite, la suite du programme présenté par Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Prague, mais qu'est-ce que vous êtes bien sur Radio Prague? Comme vous le disait Anna Kubišta dans les news, aujourd'hui est l'anniversaire d'un triste jour pour le pays, le 80e anniversaire de l'invasion par les troupes nazies. Nous en reparlerons dans la rubrique spéciale consacrée à ce chapitre sombre de l'histoire du pays. Ce sera avec Anna Kubišta dans une dizaine de minutes. Avant de parler de cela, nous parlerons de street food. Et oui, de street food avec le marché Manifesto qui ouvre ce vendredi à Prague. Et puis du foot bien sûr, avec la Ligue Europa et l'exploit du Slavia Prague contre le FC Séville. Le Manifesto Market est de retour, cette installation faite de conteneurs dans l'espace laissé vide entre la gare routière de Florence et la gare ferroviaire de Masarykovo-Nadraji dans le centre de Prague. Cette installation avait suscité un certain enthousiasme l'année dernière en mettant à disposition des Pragois près d'une trentaine de stands de street food. Nous sommes en studio avec notre spécialiste du street food, j'ai nommé Colin Gruel. Bonjour Colin.
Bonjour Alexis.
Alors le coup d'envoi de cette deuxième saison du Manifesto, c'est ce vendredi soir, exactement à 18h.
Absolument. Alors il faut d'abord savoir que Manifesto, c'est un lieu par essence éphémère. Il remplit provisoirement cet espace laissé à l'abandon avant qu'un nouveau projet, déjà à l'étude et porté par Zaha Hadid Architects, ne viennent s'y installer sur du plus long terme. Il avait donc fermé ses portes en fin d'année dernière et pour en parler, j'ai rencontré Radka Ondraczkova. Elle travaille pour l'ONG Resite, à l'origine de nombreux projets urbanistiques audacieux un peu partout en Europe, dont Manifesto. Elle m'a raconté son histoire.
Nous avons imaginé ce concept, un marché qui est une combinaison de la gastronomie, de la culture, un lieu où les gens peuvent se rencontrer en plein centre-ville. Nous avons inventé ce concept pour retourner une activité à cet endroit qui était désaffecté. Toute cette idée, c'est Martin Berry, le fondateur de Resite, qui a amené le concept et qui a voulu ouvrir un espace pour permettre aux gens de se rencontrer au milieu de la ville et aussi pour offrir un nouveau concept gastronomique à Prague, les street food, mais en collaboration avec des chefs de grands restaurants.
Alors, Radka Ondraczkova parlait de street food, donc si on met ça en français, ça donne cuisine de rue, et c'est surtout, Colin, la promesse de trouver des plats venus du monde entier.
Ce dont s'était d'ailleurs ému le chroniqueur du New York Times l'année dernière, je cite, « Sous le ciel triste d'un soir de juin, la variété a de quoi impressionner. Sandwich au porc et au fromage de chèvre, produits ayurvédiques, chou-fleur au four, porchetta au prosecco. »
Ça fait rêver.
Il y en a donc pour tous les goûts et à cela, il faudrait ajouter de nombreux événements culturels gratuits que Manifesto prévoit d'organiser, comme ça au pif, des concerts ou des séances d'initiation à la calligraphie.
Alors, un programme qui s'annonce prometteur. Est-ce que c'est rentable tout ça, Colin ?
A priori, oui, puisque l'ONG a réussi à nouer de nombreux partenariats avec des entreprises privées, notamment culturelles. Et l'aide récente d'un investisseur devrait leur permettre d'exporter le projet dans d'autres villes, d'autant que Manifesto n'a pas échappé à la vigilance d'autres acteurs urbanistiques qui ont proposé que l'équipe de Resite offre ses services en tant que consultant sur d'éventuels projets similaires ailleurs en Europe.
Et puisqu'on parle d'argent, l'autre caractéristique de ce Manifesto Market, c'est que les paiements ne s'effectuent que par carte bancaire ou par téléphone portable, c'est bien ça ?
Cashless Future, nous dit Radka Ondraczkova, avec un meilleur accent anglais que moi. Elle explique les raisons qui ont poussé Manifesto à se séparer du liquide.
L'un des aspects, c'est la sécurité. Donc il n'y a personne qui doit remporter le liquide dès que le marché ferme le soir. Ensuite, c'est la transparence. Et c'est l'hygiène aussi. Et puis c'est plus rapide, c'est confortable pour nos visiteurs.
Et ce système a visiblement séduit, puisque Manifesto Market a reçu le prix de l'expérience client lors du dernier Retail Summit.
Le prix de l'expérience client. Et Colin, est-ce qu'ils font attention à l'environnement également ?
Mais la question se pose en effet, Alexis, sachant que Manifesto risque de drainer de nombreux visiteurs et donc d'endrainer pas mal de déchets. D'autant que le marché a déjà prévu de fêter la Saint-Patrick dimanche, synonyme de fête et de grande consommation d'alcool. J'en ai donc parlé à Radka Ondraczkova.
Dès le début, nous avons préféré des produits compostables si c'était des produits jetables. Mais cette année, nous avons éliminé beaucoup de déchets parce que nous allons travailler avec une brasserie pragoise, Vinohradský pivovar, qui va introduire des verres. De vrais verres pour servir de la bière. Alors c'est quelque chose qui est très important. Nous travaillons avec une marque locale qui produit de la fourniture pour les espaces ouverts, MM Cité. et ils utilisent des bois locaux et c'est des produits écologiques, je dirais, en plus du design que nous aimons beaucoup.
Reste donc plus qu'à savoir ce qu'il en est concrètement. Rendez-vous ce soir à 18h pour la soirée de réouverture.
Suite de l'émission en français de Radio Prague et comme promis, on passe au foot avec du foot plutôt époustouflant. Au terme d'un match retour au scénario complètement fou et après un résultat nul de partout à l'aller, le Slavia Prague a en effet fait tomber le FC Séville 4-3 après prolongation jeudi soir devant son public dans le stade de l'Éden. Et le Slavia s'est ainsi qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Héroïque, ces joueurs ont aussi écrit une des plus belles pages de l'histoire européenne du club. Tout ça, c'est dit par Guillaume Narguet.
Les supporters du Slavia pouvaient bien chanter à plein poumon leur version de l'hymne européen. Leurs favoris sont eux restés en leur compagnie de longues minutes après le coup de sifflet final pour savourer l'instant. D'abord au pied de la tribune nord, là où bat le cœur de leurs fans les plus ardents, puis sur la pelouse pour profiter de cette ode à la joie footballistique. Minuit approché et les Pragois venaient de décrocher tout au bout de la prolongation grâce à un but de raccro de leur milieu ivoirien Ibrahim Traoré, ce qui apparaît c'est comme une impossible qualification 20 minutes seulement encore plus tôt. En devançant de la tête le stoppeur camerounais, Michael Ngadeu, auteur du premier but de la rencontre, Franco Vasquez venait en effet de donner, au cœur de la première mi-temps de la prolongation, un avantage que l'on pensait alors définitif. Mais l'attaquant néerlandais du Slavia, Mick Van Buren, remettait les deux équipes de nouveau à égalité à 3-3, 4 minutes seulement plus tard, faisant ainsi revivre les plus fous espoirs. Dans un suspense devenu presque irrespirable, le match plongeait alors dans l'irrationnel avec l'heureux dénouement que l'on sait désormais pour les Pragois. Après avoir lui-même orchestré, micro en main, les remerciements au public, l'entraîneur du Slavia, Injich Trpišovský, a tenu à tirer un grand coup de chapeau à ses ouailles.
Je pense que la décision s'est faite dans la tête des joueurs. Franchement, quand nous nous sommes retrouvés menés en prolongation, j'ai juste pensé qu'il serait dommage de perdre ce match après tous les efforts fournis. Puis nous avons eu le bonheur d'égaliser pratiquement dans la foulée. D'un seul coup, il nous restait encore 15 à 16 minutes pour inscrire un autre but et on voyait bien que notre adversaire était très fatigué. Les joueurs sont allés puiser leur énergie au plus profond d'eux-mêmes et c'est ce qui leur a permis de battre une équipe de Séville qui est composée des meilleurs footballeurs que la nôtre. Et puis il y a eu ce quatrième but. J'ai dit au président de bien savourer. Se qualifier à la dernière minute d'une prolongation en marquant juste devant le COP, c'est beau. Même les jardiniers en pleuraient. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Il faut donc vraiment saluer les joueurs qui ont fait preuve de ressources insoupçonnées.
Auteur du deuxième but de son équipe sur penalty, dès l'entame de la deuxième mi-temps, Tomáš Souček, qui a abattu un immense travail dans l'entrejeu 120 minutes durant, était un capitaine du Slavia fier de ses partenaires et de leur vaillance.
L'euphorie est immense. Nous venons tout simplement d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du club. Après ce très bon match, nous avons mené deux fois au score dans le temps réglementaire. Et je pense que nous avons fini plus fort que Séville. On a eu de la réussite, c'est vrai, notamment après le troisième but des Espagnols en prolongation. Il nous fallait alors marquer deux fois en moins de 20 minutes et contre un adversaire de la qualité de Séville, ce n'est pas simple. Mais on voyait bien qu'ils avaient peur de perdre dans la deuxième prolongation. Et à force d'insister, on gagne finalement à la 120e minute. C'est incroyable.
Héros malheureux de son côté de cette double confrontation avec 6 buts encaissés au total, le gardien tchèque du club sévillan, Tomáš Vaclík, avait lui aussi bien du mal à croire à ce qui venait de se passer.
Je ne sais pas quoi dire, en prolongation nous avions 2 buts d'avance et cela n'a pourtant pas suffi. Le Slavia a eu un peu de réussite, mais il faut reconnaître que ses joueurs sont allés la chercher et les féliciter. Ils ont mis plus de pression en allongeant le jeu. Ils n'avaient plus rien à perdre. Le quatrième but que j'encaisse après un cafouillage est un symbole du match. Je ne pense pas que le Slavia avait plus faim que nous, simplement le déroulement du match a été en sa faveur.
Trois ans après son grand rival du Sparta, le Slavia accède donc à son tour au quart de finale de la Ligue Europa, un stade de la compétition auquel il n'avait plus figuré dans une compétition européenne depuis 19 ans. Et au milieu des Arsenal, Chelsea, Benfica, Naples et autres Valence, avouons que cette présence apparaît comme un joli pied de nez fait par les Pragois aux grands du foot européen.
C'est avec ce récit exceptionnel du match de foot de la veille que se termine la première partie de notre émission. La deuxième partie est consacrée à un chapitre sombre de l'histoire tchèque, je vous le rappelais en tout début d'émission, car le 15 mars marque un triste anniversaire à Prague et à l'occasion des 80 ans de l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'armée hitlérienne, nous vous proposons une émission spéciale consacrée à cet événement vu de la radio tchécoslovaque. Comment ont réagi les journalistes? Ont-ils couvert l'événement? Y a-t-il eu des actes de résistance? Quel genre d'émissions ont été diffusées sous l'occupation et quelles sont les archives sonores qui existent encore aujourd'hui? Toutes ces questions, Anna Kubišta les a posées à Tomáš Dufka. Il est historien de formation et surtout directeur du département de la recherche et de la bibliothèque de la radio publique Český rozhlas.
Chapitre de l'histoire.
Cette année, nous commémorons le 80e anniversaire de l'entrée des armées nazies en Tchécoslovaquie. C'est un événement qui s'est déroulé le 15 mars 1939 et qui représente également le début de l'occupation du pays par les troupes hitlériennes. Alors, nous allons nous intéresser dans cette émission à la radio tchécoslovaque et à son rôle. Comme on sait, pour des raisons évidentes, la radio était un lieu stratégique. Que se passe-t-il à partir du 15 mars? Évidemment, les tanks arrivent devant le bâtiment central pragois, comme plus tard en 1968 l'ont fait les tanks soviétiques. Que se passe-t-il, Tomáš Dufka?
On ne sait pas exactement ce qui se passait parce que l'année 39 est différente quand on la compare à 68. La télévision n'existait pas, donc la situation est un peu plus difficile pour les historiens. Mais on peut dire que si on le compare, en 68, la situation était beaucoup plus calme. Parce que la situation n'était pas si dramatique en 68, parce que les Tchèques ont été un peu résignés en 39. Il faut rappeler que après les accords de Munich, la Tchécoslovaquie était à la merci des Allemands. Le pays était incapable de se défendre. Donc, on est aussi un jour après la proclamation de l'indépendance de l'État slovaque. Les politiciens ont approuvé cette occupation avec des Allemands, même si des Allemands les ont forcés à l'approuver. Et aussi, Hitler et Göring menacent le président Hácha de détruire le pays, bombarder Prague si l'armée ou la population tchèque s'oppose à l'occupation. Donc, très tôt, le matin, le 15 mars, des nazis tchèques, surtout venant des universités allemandes, occupent le bâtiment de la radio à Vinohradská. Et des soldats allemands n'arrivent qu'à 9 heures, mais il n'y a pas de combat. Il y a une situation très tragique, mais on va peut-être parler plus tard.
Alors justement, comment réagissent les journalistes tchécoslovaques et la direction de la radio au moment justement où ces gens, ces nazis tchèques, comme vous dites, arrivent à la radio?
C'était un peu le chaos. On ne sait pas exactement ce qui faisait la direction, mais il faut dire que déjà pendant la Deuxième République tchécoslovaque, entre octobre 38 et mars 39, la nouvelle direction se comportait avec prudence vis-à-vis les Allemands, donc n'imaginons pas la résistance de sa part le 15 mars 39. En tout cas, en ce qui concerne des journalistes tchécoslovaques, une fois les soldats ou les nazis arrivaient à la radio, on a certains souvenirs des gens qui ont vécu ce jour que des soldats mangeaient au rez-de-chaussée quelque chose dans le buffet, et parce qu'ils avaient faim. Et entre-temps, des rédacteurs tchécoslovaques enregistrent sans cesse l'émission des radios étrangères et détruisent la correspondance officielle avec aussi des auditeurs qui exprimaient le dégoût envers le régime nazi. Donc c'était peut-être la plus grande résistance, disons, ce jour-là. Mais après, il y a une chose tragique, qui c'est la démonstration la plus forte peut-être de la résistance. Le rédacteur Pavel Doner, le rédacteur slovaque, s'est suicidé ce jour-là et il a sauté au cours du dernier étage du bâtiment à la rue de dem Anzeichen der Erleichterung darüber nicht fehlen, dass man die Zeit der Unruhe und die Ungewissheit endlich losgeworden ist. Die Deutschen freilich, die mit leuchtenden Augen und klopfenden Herzen dastehen, die denken nicht mehr an die überstandenen Tage des Leidens, sondern sind von einem einzigen Gefühl der Dankbarkeit und des Glückes unserem Führer Adolf Hitler gegenüber beseelt. Es sind vor allem die Studenten, die rechts und links auf dem Wenzelsplatz auf das Einziehen der deutschen Truppen warten, dieselben Studenten, die in den letzten Tagen mit beispielloser Disziplin und vollem Einsatz für ihr Deutschtum in Prag sich gehalten haben.
Comment l'événement est-il couvert par la radio? Est-ce qu'il y a des gens finalement qui sont envoyés sur le terrain pour couvrir comme ferait n'importe quel journaliste?
Ce qu'on sait, c'est que la radio couvrait l'événement dès le petit matin, dès vraiment le 4 heures. La radio diffusait en cercle l'information qu'à 6 heures, l'armée allemande allait occuper le pays et appelait la population à ne pas résister, à ne pas s'opposer à cette occupation. Et après, on a même des historiens ne sont pas complètement sûrs, mais on peut dire qu'il y a un reportage de terrain de la place Venceslas qui était écrit. On pensait que c'était un reportage de 15 mars, mais finalement. Il y a un consensus que c'était juste mal écrit, que ce n'est pas de 15 mars, mais que de 19 mars, le jour de la défilé de Wehrmacht. Et donc, on n'a pas plus que ça. On ne sait plus que ça que des rédacteurs de l'émission. Il n'y avait pas de reportage à ce moment-là.
Alors justement, puisque vous parlez de reportage, il semblerait qu'un autre reportage, en tout cas, soit resté dans les mémoires. C'est celui d'un reporter tchèque, donc appelé František Kocourek, qui a couvert en fait un défilé militaire nazi, place Venceslas, le 19 mars, justement, et qui semble avoir réussi à faire passer ses sentiments un peu de manière déguisée dans ce reportage. Est-ce que vous en savez un petit peu plus?
Oui, c'est vrai. Le défilé de Wehrmacht était monstrueux. Il y avait l'infanterie, Richard, canon, tout ça, la démonstration de la force, aussi si l'on est des avions de Luftwaffe. Et František Kocourek a été choisi par des nazis comme un rédacteur très doué. Mais comme vous avez déjà dit, le reportage s'inscrit dans l'histoire de la radio tchèque. Elle est vraiment emblématique pour cette occupation nazie. Et pourquoi? Parce qu'on peut dire que Kocourek a joué un peu le brave soldat Schweik, disons. Qu'il décrivait le défilé comme s'il ne comprenait rien à la situation, qu'il ne sait pas décrire des sujets militaires, comme
quelqu'un de naïf.
Comme un observateur naïf, exactement. Ouais. Il l'a fait très habilement, sans critiquer ouvertement l'état des choses, mais il quand même ridiculise un peu la gravité de la situation. Et il y a le fameux scène, il y a une situation où il parle d'une grande corneille noire qui survole le défilé à Moustek, à la place Venceslas. Et en fait, cette corneille noire n'existait pas. C'était une allégorie de l'arrivée de l'armée allemande au métropole tchèque ou en Bohème. En fait, le jour après, aussi le journal Paris Soir parlait de cette scène, de ce reportage. Et donc, C'est vraiment un reportage très connu et très important. Et le destin de František Kocourek est très triste parce que après, en 1939, il a dû terminer son...
Il a dû quitter son travail.
Il a dû quitter son travail, exactement. Et après, les Allemands ont envoyé d'abord à Terezín et après à Auschwitz où il est mort en 1942. Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea nad letícími světlomety a odposlouchávacími přístroji německé armády dolů k můstku. Divila se asi tomu hluku, který zde slyšela a obrazu, který uviděla pod sebou.
Alors la radio tchécoslovaque change de statut, hein, évidemment. Elle passe sous contrôle allemand. Elle dépend du coup du ministère de la propagande à Berlin, qui est dirigé par nulle autre personne que Joseph Goebbels en personne. Quels sont les changements majeurs opérés à l'époque dans le fonctionnement de la radio et dans les émissions ?
Comme j'ai déjà dit, déjà pendant la Deuxième République, la radio diffusait le programme qui ne devait pas fâcher des Allemands. Mais après, le 15 mars, la situation a encore changé, beaucoup changé. Et bien sûr, il y avait des choses peut-être on n'est pas surpris par ça. Mais quand même, il faut les nommer. La première chose, c'est qu'il y avait des purges antisémites, qu'il y avait des rédacteurs juifs et tous les commentateurs, tous les journalistes juifs qui ont dû quitter la radio. Il y avait aussi le nom de la radio a changé. Pendant la Deuxième République, la radio s'appelait Československý rozhlas, mais Tchèque et Slovaque étaient divisés
dans l'appellation. Il y avait un tiré entre Tchéco et Slovaque.
Exactement. Après 15 mars, le nom de la radio a changé à Radio Journal. Après, bien sûr, ce qui a changé, c'était la censure qui est arrivée à la radio. Par exemple, des auteurs comme Martinů, le compositeur Bohuslav Martinů ou Jaroslav Ježek étaient interdits, où il y avait aussi des radiothéâtres des auteurs étrangers qui ne devaient pas passer. Bien sûr, il y avait le contrôle de tous les discours, tous les commentaires. Il y avait la priorité aux actualités et les discours des politiciens comme le président Hácha ou plus tard le ministre Kolabo d'éducation Emmanuel Moravec.
Lidé Čes před 20 lety zajásala všetka česká srdce naplněná souce naději, že vstupujeme do šťastného údobí našich národních dějin, které nám přináší.
Une seule adresse sur Internet pour écouter cette émission ainsi que toutes les autres émissions de Radio Prague, www.radio.cz, www.radio.cz/fr pour accéder directement aux pages en français. Nous sommes également sur Twitter et sur Facebook, donc tous à vos claviers. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Ahoy!